Bonsoir mes frères et sœurs, quel bonheur, quelle grâce, c'est pas vrai, de se retrouver avec des frères, des bien-aimés, dans un local, dans une église, climatisée, c'est une grâce, à côté c'est pas climatisé, non, mais quel bonheur, on a chanté, un cantique, on chante pas souvent, une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter dans la maison du Seigneur et apprendre à le connaître vraiment. C'est pour ça qu'on est là. On n'est pas là pour faire une exhortation, une étude, une réunion de plus. Apprendre à le connaître vraiment. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a bien voulu dire? Qu'est-ce que je dois en retenir? Dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, vous savez que Gabriel s'est adressé à Marie par rapport à l'incarnation. Luc, chapitre 1er, verset 37. Et l'ange Gabriel va donner une parole. Une parole à cette jeune fille qui a besoin de cette parole. Est-ce qu'elle en avait besoin? Oui, Dieu sait ce dont on a besoin. Vous n'avez peut-être pas besoin d'entendre certaines choses. Si je vous parle ce soir de certains textes bibliques, vous allez dire, mais c'est bien, mais je n'en ai pas vraiment besoin. Mais Dieu, il sait ce qu'on a besoin. Il le sait. De la même manière que nous, on sait quels sont nos besoins matériels. Quelqu'un qui, il manque 50 euros pour arriver à la fin du mois. Est-ce que ça peut arriver?
Oui.
Donc, Seigneur, tu vois mon besoin. Il faut le faire connaître. Mais Dieu sait ce dont on a vraiment besoin. Une parole, alors regardez cette parole, c'est une parole extraordinaire. J'ai prêché il y a 3 ans dessus, je crois, mais j'avais à cœur ce matin de revenir sur ce texte. Luc chapitre 1, verset 37. Donc voilà ce que l'ange Gabriel dit à cette jeune fille. Car rien n'est impossible à Dieu. Vous pouvez dire amen, ça me semble bien. Vous pouvez le dire? Et vous pouvez le redire de tout votre cœur. Car rien n'est impossible à Dieu. Cette parole, vous la connaissiez? Est-ce que vous la connaissiez, cette parole? Vous la connaissiez? Combien de fois l'avez-vous lue? Depuis votre conversion? Plusieurs. Plusieurs fois, donc. Ça veut dire quoi, plusieurs? Très souvent. Voilà. Mais vous avouerez que cette parole, ou elle est dans notre tête, parce qu'on l'a lue depuis 40 ans, ou elle est dans notre cœur. Et je voudrais ce soir que quand on va se séparer dans 3 quarts d'heure, cette parole, elle ne soit pas dans notre tête. Elle ne soit pas dans notre tête. Cette parole, elle soit descendue dans notre cœur. Vous entendez, mes frères et sœurs? Parce qu'il y a des paroles, c'est bien qu'on les sache, qu'on les connaisse par cœur, mais... C'est bien, mais ça ne sert à rien. Est-ce qu'on pourrait prendre un païen, par exemple, le premier païen qui passe dans la rue, est-ce qu'on pourrait l'attraper? À 2 ou 3, vous allez l'attraper, les stagiaires. Vous allez attraper le premier païen, vous l'attrapez, vous l'amenez de force ici, vous l'asseyez sur la chaise, et à la fin de la réunion, il faut qu'il puisse dire, Luc 1, 37, rien n'est impossible à Dieu. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Si on peut le faire. Bon, on ne le fera pas. Elle a raison, Madame Lucconi. Mais vous comprenez ce que je veux dire. On peut attraper un païen et dire, voilà, dimanche, tu viens à l'église, tu t'assois sur l'estrade et tu répètes ce verset, tu l'as appris par cœur, Luc 1, 37, rien n'est impossible à Dieu. Et il va venir et dimanche, il va se dire, voilà, Luc 1, 37, rien n'est impossible à Dieu. C'est un païen, il ne connaît rien de Dieu, il peut le répéter, oui ou non. Il l'a appris par cœur, mais c'est dans sa tête. Et ce que Dieu veut, c'est que des paroles comme celle-ci, ça soit vraiment dans notre cœur. Que nous puissions vivre avec cette parole que l'ange Gabriel a adressée à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Mes frères et sœurs, combien je voudrais qu'on ne retienne que ça ce soir. Vous allez me dire, mais c'est une prédication qui est un petit peu courte. Oui, c'est dit autrement. Ailleurs, il est dit à Dieu, tout est possible. C'est dit, vous voyez, c'est dit différemment, c'est dit à l'envers, mais c'est pas grave. Quand on dit... Rien n'est impossible à Dieu. Ça veut dire quoi? Prenez un problème, n'importe lequel. N'importe quel problème auquel vous pouvez penser. Vous avez un problème. Est-ce que vous avez eu un problème dernièrement? Oui. Un problème de santé, un problème de couple, un problème de travail, un problème psychique, un problème intellectuel, un problème spirituel. Faites tout ce que vous voudrez. Mettez-y ce verset dessus et vous allez voir que tout va changer. Seigneur, je crois que rien ne t'est impossible. Et dans la parole, plein de choses ont été écrites pour que nous puissions faire en sorte que ce verset descende dans notre cœur. Le problème, C'est ça, c'est qu'on on chante, on, tous les cantiques qu'on a chantés, c'était beau les cantiques qu'on a chantés? Oui. Alors il y a des choses qu'on ne sait pas, je ne sais pas, c'est pas grave. Mais il y a des choses qu'on doit savoir. Vous devez, nous devons savoir que rien n'est impossible à Dieu. Parce que si cette parole est dans votre cœur, si vous vivez avec cette parole, vous deviendrez de véritables chrétiens, de véritables adorateurs. Et c'est quoi que Dieu recherche? C'est des adorateurs. De vrais adorateurs. Pas des gens qui savent conjuguer le verbe adorer à la première personne du singulier. Ça, c'est facile. Ça aussi, on peut prendre un païen et dire, écoute, dimanche, tu conjugues le verbe adorer à la première personne du singulier. Ça signifie, je t'adore. Tu répètes, je t'adore. Et on lui fait répéter, je t'adore. On en prend trois au pluriel. Nous t'adorons. Est-ce que c'est des adorateurs pour autant? Non. Un adorateur en esprit, en vérité, c'est quelqu'un qui vit la parole. Oui, je le sais. Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que vous le croyez, ça, mes frères? C'est comme ça que notre foi est vivante. C'est comme ça qu'on peut se mettre tout à l'heure, peut-être en rentrant et dire, Seigneur, mais je te confie cette affaire. Tu vois cette souffrance que j'ai dans mon cœur. Je la dépose à tes pieds. Et vous allez conjuguer ça à d'autres lectures. Quand Jésus termine le Notre Père, il ajoute, car Dieu règne au siècle des siècles. Est-ce que vous, Dieu nous demande de terminer la prière comme ça? Oh, il ne faut pas réciter des prières, mais vous avouerez que le Notre Père est un canevas qui nous enseigne, chaque fois que l'on prie, à dire, mais Seigneur, mais de toute façon, tu règnes au siècle des siècles. En 2015, vous pouvez comprendre l'actualité ou ne pas la comprendre, moi je vous dis que Dieu règne au siècle des siècles. Vous pouvez dire amen, ça ne me contrariera pas. Ouais. C'est important, mes frères et sœurs. En tous les cas, beaucoup de chrétiens sont dans l'abattement. Beaucoup de chrétiens ne sont pas comme ils devraient être. Plusieurs, quand vous avez prié tout à l'heure, je vous ai écouté. Il y en a trois qui ont prié. Seigneur, tu fais de nous des chrétiens plus que vainqueurs. C'est pas vrai, il n'y en a pas qui ont prié comme ça? En tout cas, il y en a trois qui ont prié dans ce sens. Trois qui ont prié, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que c'est ça que vous voulez être? En tous les cas, c'est ça que Dieu veut. Et il y a des gens qui ne changent pas. Je le sais, parce qu'en tant que pasteur, je suis des gens depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a des chrétiens que je connais de Groyer, d'Albi, depuis 35 ans. Et je peux vous dire qu'ils n'ont pas fait un progrès avec Dieu, parce que ce qu'ils ont entendu, c'est resté dans la tête. Ce n'est pas descendu dans le cœur. Et moi, je voudrais que vous compreniez ces choses. Pourquoi Dieu a fait certains miracles dans la Bible? Une question. Vous allez me répondre. Hein? Il faut que vous me répondiez. Combien de temps ils font pour faire un bon vin? Si vous allez voir un œnologue, vous dites, voilà, combien de temps il faut pour avoir un bon Bordeaux, un bon Bourgogne, un bon Gaillac? Ça dépend des régions, c'est vrai. Un bon Bordeaux, combien de temps il faut pour faire un bon Bordeaux? Combien? 5 ans? Qui c'est qui a dit 5 ans? Qui a dit 5 ans? Oui. Est-ce qu'en 5, c'est vous qui avez dit 5 ans? En 5 ans, est-ce qu'on peut avoir un bon Bordeaux? Oui, ça commence. Bon, en 15 ans, est-ce que certains vous diront, non, 5 ans, c'est pas assez. Il faut 15 ans. À combien de temps Dieu peut, le Seigneur peut faire un bon vin? Rien n'est impossible à Dieu. Le premier miracle qu'il a fait, c'est pas ça qu'il a fait? Que l'ordonnateur du repas dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que tu as fait? Il a été voir le serviteur, mais qu'est-ce que tu as fait? En principe, on sert le bon vin, puis après quand les gens ils ont un peu bu, ils ne se rendent pas trop compte, donc on sert le mauvais, toi tu as fait l'inverse. Donc c'est la preuve que le Seigneur Jésus, en quelques secondes, il avait fait du bon vin. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi c'est son premier miracle? Eh bien c'est pour que nous comprenions qu'au Seigneur, rien n'est impossible. Ce qu'un homme va mettre 5 ans, 15 ans, 20 ans pour faire, Dieu peut le faire en quelques secondes. Alléluia! Et ça, mes frères et sœurs, il faut que ça soit dans notre cœur. On va faire un texte dans les Lamentations de Jérémie. Dans les Lamentations de Jérémie, au chapitre 3, il est dit quelque chose. Ce sont des paroles qui nous permettent de comprendre que Dieu règne. Il règne sur tout. Tout. Lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 37. Il y en a des choses qui se passent aujourd'hui sur la terre, oui ou non? Est-ce que vous... Et encore, on ne sait pas tout. On doit voir que le sommet de l'iceberg, à peu près. Dans toutes les infos que l'on a, Je pense qu'on n'a que le sommet de l'iceberg. Vous savez qu'il y a plein de pays dans le monde où tous les journalistes sont interdits. Donc, ce n'est pas ce qui s'y passe. Et c'est certainement là où il y a les choses les plus dramatiques qui se produisent. Mais regardez ce qui est écrit. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Alors après, verset 39, il y a une question. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que Dieu règne sur tout, mais sauf sur le péché. Qu'il ne faut pas vivre dans le péché. Que si on vit dans le péché, eh bien, on met en stand-by cette grâce qui pourrait se manifester d'une manière beaucoup plus profonde dans chacune de notre vie. Regardez dans un texte, je pense à un autre texte, on était dans Jérémie, regardez dans Ésaïe. Vous connaissez le roi Sanchérib? Est-ce que vous connaissez Sanchérib? Vous le connaissez? C'est pas un tendre, lui. C'est pas un ami du Seigneur, croyez-moi. Ésaïe 37, vous le lirez chez vous. Vous lirez chez vous du verset 26 au verset 36. Ésaïe 37. Et vous regarderez ce roi, ce qu'il a fait. Comment cet homme a voulu détruire le peuple de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui veulent détruire le peuple de Dieu. Vous lirez l'histoire. Et croyez-moi, il était déterminé. Il avait déjà ravagé plusieurs nations. Il s'est mis en colère contre Dieu. Mais regardez, on va lire que le verset 36. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Un ange qui est intervenu parce que ce roi était mauvais, impie et voulait détruire Israël. Eh bien, voyez, un ange est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, qu'à Dieu, rien n'est impossible. Mes frères et sœurs, nos prières, parfois elles sont... On a critiqué les gens qui récitaient des prières. C'est vrai ou c'est pas vrai? Hein, on dit, c'est catholique, ils récitent toujours le Notre Père, le Je vous salue Marie, ça fait pitié. Ah oui? Mais vous croyez pas que nous, on a parfois récité aussi des prières? C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui ou non? Est-ce que ça peut nous arriver? Alors, on ne se regarde pas trop. Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que ça peut nous arriver de prier comme des récitations? Oui, ça peut nous arriver. Nous ne soyons pas excessifs. Ça peut nous arriver. Mais mes frères et sœurs, je vous assure que si nous réalisions ces textes, voyez celui-là de Sanchérib, comment Dieu est intervenu? Vous rappelez que, mais d'ailleurs, quand je lis ce texte, je pense toujours à Jésus dans le jardin de Gethsémané, quand il dit à Pierre, mais tu sais pas qu'à l'instant même, je pourrais invoquer mon Père qui enverrait combien de légions? 12 légions d'anges. Là, c'est pas un. 12 légions, 72 000 anges, qui en une seconde auraient pu intervenir pour défendre Jésus. Est-ce que vous pensez qu'il l'aurait bien fait? Moi, je pense que oui. Tout est possible à Dieu. Et mettez-y votre problème. Je ne sais pas quel problème est en train de vous faire mal. Ça peut arriver, ne nous l'aurons pas. À chaque jour suffit sa peine. Donc, on comprend qu'il peut y avoir tous les jours une affliction. C'est normal. Mais dans cette peine, dans ce chagrin, dans ce deuil, dans cette épreuve, dans cette maladie, mettez-y cette parole et vous allez voir qu'à Dieu, rien n'est impossible. Nous le voyons dès le début. La prophétie était catégorique. Où c'est que Jésus devait naître? Il devait naître à Toulouse. Non, pas Toulouse. Il devait naître à Bethléem. Et Marie et Joseph habitaient où? À Nazareth. Donc, il y avait un problème. Oui ou non? Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, à Rome, César Auguste a eu une idée. Un matin, il a dit, il faut que je fasse un recensement en Palestine. Il faut que je sache. Et donc, paf, il a fallu que Joseph et Marie partent à Nazareth, à Bethléem. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit que Jésus naîtrait à Bethléem. Est-ce que Dieu peut incliner le cœur d'un roi? Est-ce que c'est écrit dans les proverbes? Oui. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? À Dieu, tout est possible. C'est pour cela que nous devrions Nous devrions comprendre ce qu'on chante parfois. Vous voyez, quand on chantait « Je veux apprendre à le connaître vraiment ». Mais Seigneur, c'est vrai. Jésus, vous voyez Jésus qui serait né à Bethel ? Ah, et que Dieu dit, ah, oui, mais c'est mal, je pense. Non, quand Dieu dit quelque chose, c'est la vérité. Il fallait que Jésus naisse à Bethléem, il est né à Bethléem. Et il a utilisé quelqu'un à Rome pour faire un recensement, pour qu'il naisse vraiment là où il devait naître. Mes frères et sœurs, tout est possible à Dieu. Et votre vie changera si vous croyez ces choses. Votre tout changera. Et il ne faut pas que ça soit là-dedans en disant « Oui, je le sais, je vais l'apprendre par cœur. » Moi, je fatigue les stagiaires de leur dire « Apprenez les versets par cœur. » C'est bien, mais c'est pas ça ne suffit pas. Il faut que ça soit là, dans notre cœur, mes frères et sœurs. Parce que quand on croit que tout est possible à Dieu, est-ce que Dieu peut toujours pardonner ? Il y a des chrétiens. Pourquoi des chrétiens rétrogradés ? Vous n'en connaissez pas des chrétiens qui ont rétrogradé ? Vous en connaissez ? On en connaît tous. On est malheureux. Beaucoup ont rétrogradé, je le sais, hélas. Parce qu'ils ne croient plus au pardon. S'ils croyaient qu'à Dieu tout est possible, oui, Dieu peut toujours pardonner. Dieu peut toujours guérir. Dieu peut toujours restaurer. Est-ce qu'il est le restaurateur, le Seigneur ? Est-ce que c'est écrit plusieurs fois dans la Bible, « Il restaure mon âme » que c'est écrit ? Ben oui, il restaure mon âme. Je le crois, ça ne va pas, mon âme est comme une maison délabrée. Seigneur, tu vas me restaurer. Oui, je crois que c'est possible. Dieu peut toujours convaincre. Vous avez un enfant qui est encore inconverti. Seigneur, sauve-le, convainc-le de péché. Voilà. À Dieu, rien n'est impossible. Si vous le croyez, croyez-moi mes frères et sœurs, votre vie changera. Il y a trop de chrétiens qui sont devenus religieux, ils vont à l'église, c'est bien. Ils aiment Dieu, c'est vrai. Ils sont sauvés, c'est sûr, et c'est extraordinaire. Et ça suffit, presque, je pourrais dire. Mais mes frères et sœurs, il n'y a pas que l'éternité qui doit être bénie. Même la terre peut être bénie. C'est vrai que moi, on me dirait, mais tu seras la terre, tu vas rester là, en roue libre, tu vas être malheureux jusqu'à ta mort, mais en fait, t'es sauvé, Gérard. Moi, ça me suffit. La terre, qu'est-ce qu'il nous reste à vivre ? Moi, du moins que l'éternité, ça va bien se passer. Si sur la terre, ça ne se passe pas trop mal, je peux dire, bon, c'est pas grave. Mais mes frères et sœurs, Dieu, il ne veut pas bénir que l'éternité. Dieu, il veut bénir le présent. Et voyez, il y a des versets comme ça. Je ne sais pas comment vous faites, parce que moi, je suis pasteur, mais d'abord, je suis un chrétien. Et vous savez, il y a un verset, moi, qui m'a délivré il y a longtemps de ça. J'étais dans une épreuve et je vivais toujours mal le présent. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, ça. Vous espérez, bon, pour l'avenir, j'étais pas inquiet, j'avais de l'espérance. Mais l'espérance, c'est une chose, la foi, c'en est une autre. Et je lisais les Corinthiens. Je vous en ai déjà parlé. Mais je vous le dis pour que vous compreniez combien c'est important que le Seigneur, il nous a fait connaître ce qu'on a besoin de savoir. Je lisais les Corinthiens parce qu'il y a un problème. Parce que les Corinthiens, c'est les problèmes dans les églises. C'est bien, ça nous permet de comprendre les choses. Alors, il y a un problème dans l'église, il y en a qui sont pour Paul, il y en a qui préfèrent quand c'est Pierre, d'autres, bien sûr, ils préfèrent Jésus, c'est clair, etc. Et donc, l'apôtre Paul leur écrit, il leur dit, voilà, écoutez, mais non, Dieu a mis Paul dans l'église, Dieu a mis Pierre, Dieu a mis plusieurs pasteurs, c'est bien. Dieu a mis Apollos. Est-ce que c'est bien qu'il y ait plusieurs pasteurs dans une église ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce qu'il faut en préférer un ou est-ce qu'il faut dire, mais non, si Seigneur, si tu en as mis trois, merci Seigneur pour les trois. Oui, c'est ce que... Mais regardez, ça c'est la façon de Dieu. C'est la façon de Dieu de répondre, de parler. Il n'y a que lui qui peut faire ça. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21. Regardez bien mes frères et sœurs. Parce que c'est la façon de Dieu d'agir. Il ne règle pas qu'un problème, il donne d'autres solutions. Et on le voit plusieurs fois ça, on le voit. Quand Salomon demande certaines choses, ah, tu as demandé la sagesse, et moi je vais te donner en plus autre chose. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Regardez bien ce mot, cette parole, car tout est à vous. Vous le croyez ça? Alors qu'est-ce que c'est qui est à nous? Soit Paul, soit Apollos, soit Cephas, il aurait dû s'arrêter là. Pour répondre au problème de Corinthe, d'accord? Mais comme Dieu est bon, il nous donne d'autres réponses. Soit le monde, pas les choses du monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses à présent, soit les choses à venir, tout est à vous. Et quand j'ai lu, mais la vie est à nous, la mort est à nous, le présent est à nous, les choses futures sont à nous, les choses éternelles sont à nous, tout est à nous. Est-ce que vous le croyez, mes frères et sœurs? C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui se pourrissent la vie, excusez-moi le terme, on peut l'utiliser quand même, il est biblique. Oui, il est biblique. Il y a des gens qui se détruisent la vie parce qu'ils n'ont pas compris que le présent, il est pour eux. Vous le voyez comme moi? D'ailleurs, c'est quoi la piété? Quand Paul dit « Exerce-toi à la piété », elle a la promesse de la vie. Comment? Non, pas de l'éternel. De la vie présente et de la vie à venir. La vraie piété, ce n'est pas que l'espérance. La piété, c'est l'espérance et la foi. L'espérance, c'est sûr que ça rend certain l'avenir, mais la foi, ça rend certain le présent. Il n'y a pas que l'avenir, il y a aussi le présent. Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens se détruisent leur vie spirituelle, parce qu'ils n'ont pas compris que les choses dans une église, elles sont comme ça. Mais s'il y a trois pasteurs, eh bien, tant mieux. S'il y a trois pasteurs, merci Seigneur, ils sont tous les trois pour nous. On ne va pas commencer à se disputer parce qu'il y en a un qui prêche d'une façon et l'autre de l'autre. Soyons intelligents. S'il y a la clim dans l'église, elle est pour tout le monde. Est-ce que c'est bien qu'il y ait la clim? Oui? Elle est pour vous la clim? Elle est pour qui? Tout est à vous. Mes frères et sœurs, on devrait être sérieux avec ce que Dieu dit. Dieu ne dit pas les choses pour les dire. Nous, on dit des choses, ça ne sert à rien. Souvent, on a dit des choses, on regrette de les avoir dites. C'est pas vrai? Vous n'avez pas regretté d'avoir dit certaines choses des fois? Si j'avais su, je n'aurais pas dit ça. Oui ou non? Ouais. Moi, combien de fois j'ai dit à ma femme, oula, si j'avais su, je n'aurais pas dit. Parce que ça, je savais que ça allait générer. Après, je me suis dit, ça va générer une petite difficulté. C'est jamais arrivé, ça, ceux qui sont mariés? Tous, on est tombés dans le panneau. Mais Dieu, lui, quand il dit quelque chose, c'est important. Il ne regrette pas. C'est important. Il avait à nous le dire. Mes frères et sœurs, c'est comme ça qu'une église combat le bon combat. Parce qu'elle vit dans la victoire. Quand vous comprenez ces textes, vous pouvez prier. Pourquoi tant de chrétiens ne prient plus? Pourquoi tant de réunions de prière sont abandonnées? Parce que les gens ne sont pas dans cet esprit de victoire. Et mes frères et sœurs, si nous voulons vivre dans la victoire, si nous voulons prier avec foi, si nous voulons prier avec ferveur, si nous voulons pas nous baisser les bras, et si nous voulons pas que l'ennemi nous vole tout ce que Dieu nous a donné, parce que c'est un spécialiste, le diable. Et on le sait qu'il y aura des tribulations. Vous aurez des tribulations. On en a tous des tribulations. Mais prenez courage. Satan, il fera tout. N'oubliez pas que Satan, il sait. Il a de l'expérience, des millénaires d'expérience. Et il sait, en fonction de votre personnalité, ce qu'il faut pour vous décourager. Ce qu'il faut pour vous empêcher de prier. Il le sait. Je vais vous donner le témoignage de ce frère qui est parti de l'église. Il était content parce qu'il m'a dit, « Monsieur Gros, je suis content, dans 3 mois, j'ai la retraite. Vous rendez compte, j'aurai au moins 9 heures par jour de plus pour servir le Seigneur. » Et c'est vrai, 8 heures de travail et 1 heure d'aller-retour. Je l'ai vu 6 mois après, il me dit, « Monsieur Gros, » et en rien, il me dit, « Vous ne le croirez pas. Ah, mais vraiment, c'est marrant. Hein. J'ai encore moins de temps qu'avant. J'ai même pas le temps de prier. » J'ai dit, « Moi, ça ne me fait pas rire. » Vous rendez compte, il avait 9 heures de plus par jour, il avait moins de temps pour prier et lire. Vous avouerez que, et ce n'est pas le premier qui m'en a dit, ce qui nous prouve bien que le diable est un voleur et que nous devrions dire non. Tu me demandes de prier. Est-ce que c'est écrit prier? Quand est-ce qu'il faut prier? Prier quand vous êtes de bon poil. C'est comme ça que c'est écrit? C'est pas écrit comme ça? Comment il est dit? Prier en tout temps. Voilà, Seigneur, tu me le demandes. Eh bien, je le fais. J'ai envie, j'ai pas envie. J'ai peut-être qu'un quart d'heure. Oui, j'ai qu'un quart d'heure. Mais ce quart d'heure, je veux le vivre dans cet esprit de foi. Oui, rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Vous savez, le diable, combien de fois il a empêché les gens de persévérer? C'est écrit, vous avez besoin de persévérance. Combien de gens n'ont plus d'assurance? Il y a des chrétiens, je le sais, ils aiment Dieu autant que les autres. Ils n'ont plus d'assurance. Est-ce que c'est écrit ça aussi? N'abandonnez pas votre assurance. Comment ne pas abandonner son assurance? En répétant en boucle, je ne perds pas mon assurance, je ne perds pas mon assurance, je ne perds pas mon assurance, j'ai de l'assurance, je suis bien assuré. J'ai de l'assurance. Non. Je ne perdrai pas mon assurance en méditant les promesses de Dieu. Si Dieu a dit par l'ange Gabriel à Marie, il le dit à tout le monde, rien n'est impossible à Dieu. Le diable, il est fort, croyez-moi, pour briser les foyers, pour briser les couples. Et nous avons pourtant un Dieu qui dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Vous le croyez, mes frères et sœurs? Mes frères et sœurs, je vous assure, ce soir, je ne sais pas si vous allez terminer en priant votre journée, mais croyez-moi, vous prierez différemment. Si vous dites, je crois que rien n'est impossible à Dieu, c'est tout. Et vous pourrez, on ne va pas le faire parce qu'on n'a pas le temps, mais vous pouvez prendre les textes et vous comprendrez pourquoi certains hommes ont prié. Rappelez Paul et Silas dans la prison. Rappelez, ils avaient été frappés, blessés. On les enferme en pleine nuit dans une prison intérieure, sans fenêtre, certainement humide, avec des rats partout, des blessures attachées. C'était quand même... C'était dur quand même. Et qu'est-ce qu'ils font, hein? Ils chantent. Et qu'est-ce que Dieu fait? Et ça, est-ce que ça plaît à Dieu? Un peu. Ça plaît quand même un peu au Seigneur. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu provoque un tremblement de terre et ils vont faire une expérience extraordinaire. Je pense que Paul avait compris dans son cœur que rien n'est impossible à Dieu. Et vous le savez, il vous sera fait selon la foi du pasteur. C'est pas ça? C'est pas comme ça que c'est écrit? Comment c'est écrit? Vous êtes sûr? Il vous sera fait selon votre foi. Le juste vivra par sa foi. Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Parce que ça peut arriver que le pasteur ne soit pas en forme. Est-ce que ça peut arriver d'avoir un pasteur qui ne soit pas en forme? Est-ce que ça pourrait arriver? Alors si le pasteur n'est pas en forme, ça va baisser mon niveau spirituel? Non. Le pasteur n'est pas en forme, eh bien on va prier pour lui, pour que Dieu le relève. Je ne dépendrai pas du haut et des bas de mon pasteur. Je dépendrai de la grâce de Dieu. Je veux vivre quelque chose avec Dieu. Pas des expériences pour faire des expériences. Il y a des gens ils veulent faire des expériences, ça ne correspond à rien. Mais il y a des choses que Dieu veut. Quand il est dit trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, est-ce que Dieu veut que vous ayez ces trois choses? Voilà, ça vous pouvez le demander. Seigneur, tu vois, j'ai la foi, mon espérance, l'amour, j'ai du mal à aimer les gens, ma propre famille. Est-ce que ça peut arriver qu'on se trouve dans la tourmente, que c'est déjà difficile d'aimer quelqu'un de sa famille? Est-ce que ça peut arriver? Mais bien sûr, ça peut arriver. Seigneur, moi, tu vois, ces trois choses, je ne les négocierai pas. Je veux retrouver cette foi vivante. Je veux retrouver cet amour vraiment vrai. Je veux retrouver cette espérance. Et je vais les demander. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche. Vous rendez compte de cette délicatesse? Parce que nous, on est tout le temps en train de se faire des reproches. Ben ouais, si t'as perdu, si t'aimes pas les gens, ben c'est que t'as un fichu caractère. Vous savez, il y a des gens qui sont forts pour nous. Il y a des gens qui sont forts pour nous élever. Dans l'autre sens. Il y a des gens qui sont forts, même des chrétiens parfois. Que Dieu nous garde. Si quelqu'un manque de quelque chose, qu'il le demande à Dieu, qui donne à tous, pas aux meilleurs, à ceux qui sont les plus en vue dans l'Église, à ceux qui ont une responsabilité, il donne à tous. Vous ne pourrez pas vous présenter devant Dieu et dire « Oui, mais moi tu ne m'as pas donné, Seigneur. » Non, mais c'est que vous n'avez pas demandé. Vous n'avez pas cru qu'à Dieu, tout est possible. Tout est possible à Dieu. Nous devons en être puissamment convaincus. Je disais l'autre jour, avant le culte, que je prends parfois quelques versets lorsque je n'ai pas trop envie de prier. Comme par exemple, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ça fait du bien, ça. Ça vous arrive pas des fois? Ça vous arrive de ne pas avoir envie de prier? Est-ce que ça peut vous arriver? Ou est-ce qu'il y a des gens ici qui ont toujours envie de prier? Vous pouvez vous lever? Votre témoignage m'intéresse énormément. Il y a des fois, on n'a pas envie de prier. C'est pas vrai? C'est pas facile, toujours. C'est un combat. Et moi, des fois, ça m'arrive. Alors, on dit quand même, il te faut préparer un culte, il te faut te tenir devant le Seigneur. C'est ce à quoi tu as été appelé. Et moi, j'aime passer du temps dans la prière. Eh bien, je lis quelques versets. Et alors, est-ce qu'on peut les lire? On peut les lire? Allez, on va le lire. Matthieu 28. On va terminer avec cette façon. Mais c'est important, mes frères et sœurs. Ça a été écrit que dans un seul but. Dans un seul et unique but, nous faire du bien. Voyez? Allez, on va les lire. Je vais vous montrer comment je fais à la maison quand je n'ai pas envie de prier. Pas tous les jours quand même, hein? Ne vous inquiétez pas. Matthieu 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est pas un peu pareil, ça, que rien n'est impossible à Dieu? Quand vous priez, ça ne vous encourage pas, ça? Franchement, tout pouvoir. Moi, je vous assure, quand j'ai pas envie, ben j'en ai honte, vous me gardez quand même, oui? Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Deuxième texte, Romains 14, 9. Jean 17. Je ne l'ai pas marqué celui-là, c'est pour ça que je ne me rappelais pas. Mais c'est quand même, c'est écrit, Jean 17, verset 2. Il faut comprendre, mes frères et sœurs, c'est sérieux ces choses. Si vous priez sans cette assurance, sans cette conviction, on va ressembler à ces gens religieux qui prient pour prier en s'imaginant que peut-être Dieu les entend. Jean 17, verset 2. Ce lion, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Jésus a pouvoir sur toute chair. Alléluia. Ça veut dire que quand vous priez, Seigneur, tu vois, je te prie pour Monsieur Dupont. Tu vois, cet homme récalcitrant, cet homme impie. Dieu a pouvoir sur sa vie. Il a reçu pouvoir sur toute chair. Romains chapitre 14, verset 9. C'est comme ça que vous réalisez que Dieu peut tout. Et vous allez voir vos prières hein, vraiment exaucées. Mes frères et sœurs, croyez-moi, c'est pas vos prières, c'est Dieu qui est puissant. Romains 14, verset 9. Car Christ est mort et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Vous le croyez? Sur les morts. Dans votre famille, il y a des gens qui sont morts. Ils sont spirituellement morts. Je ne parle pas des morts qui sont morts physiquement. Il y a des gens qui sont morts spirituellement. Mes frères et sœurs, quand vous priez, quand vous dites, Seigneur, tu vois, je te prie pour ma fille, elle n'est pas encore à toi. Eh bien, quand vous priez avec ça, vous dites, mais c'est vrai, tu domines sur les morts. Alors, Seigneur, agis dans le cœur de cette jeune fille. Agis dans le cœur de cet oncle. Voilà, c'est comme ça que les choses se passent. 1 Pierre, chapitre 3, verset 22. Moi, je les ai marqués dans ma Bible. Là, je fais que faire ce que je fais quand je n'ai pas envie de prier. 1 Pierre, chapitre 3, verset 22. Demain matin, peut-être faites-le, vous prenez ces textes avant de prier. Ne le faites pas mécaniquement, machinalement, mais faites-le en comprenant que Dieu les a laissés pour qu'on comprenne bien ces choses. Il est à la droite de Dieu. Vous le croyez que Jésus est vivant? Dernièrement, j'avais été chez mon docteur et il me dit, Monsieur Gauche, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. On a retrouvé le corps de Jésus. Ah bon? Et où? Dans une tombe à côté de Jérusalem. On a trouvé une tombe où il y avait écrit Jésus de Nazareth. Ah, j'ai dit, mais Jésus, vous croyez qu'il est dans une tombe? Il ne faut pas creuser dans ce sens pour le trouver. J'ai dit, pour le trouver, il faut creuser vers le haut. J'ai dit, mais il est vivant. Alors, mais non, il est. Vous n'êtes pas content? Non, il n'est pas dans une tombe. Il est vivant. Et en plus, je lui dis, vous allez le rencontrer un jour. Ah, il faut que vous y pensiez. Bon, il n'a pas beaucoup apprécié. Mais c'est pour chaque fois que je l'ai versé, j'y pense, il était en colère. Oui. 1 Pierre chapitre 3 verset 22, il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel. Regardez bien. Et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Ça m'encourage à prier ça. Quand j'ai pas envie, Seigneur, tu es au ciel, tu es vivant, tu es à la droite de Dieu, tout est soumis dans le ciel et sur la terre. Apocalypse 17 verset 14. Mes frères et sœurs, je vous assure, rien n'est impossible à Dieu. J'avais que cette pensée sur mon cœur à partager ce soir. C'était simple, mais retenez-le. Marquez-le sur, je sais pas, sur votre page de garde, sur votre écran d'ordinateur. Vous marquez des choses sur l'écran d'ordinateur hein? Il y en a qui mettent des petits mots à leur femme. Je t'aime, chérie. Mettez, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Apocalypse 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Voilà comment ça se passe dans le royaume de Dieu. Nous vaincrons aussi, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois. Et quand je prie, je ne mets pas ma confiance dans la prière. Il y a des gens, ils sont super contents quand ils prient. Et dès qu'ils arrêtent de prier, ça ne va pas. Ça prouve qu'ils mettent leur foi dans la prière et non pas leur foi en Dieu. Je vous assure, j'ai vu ça chez plusieurs chrétiens. Il faut avoir foi quand on prie. Quand on prie, il faut avoir confiance à Dieu. Mais quand on ne prie pas, il faut faire confiance à Dieu aussi. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, ils sont bien, ils sont heureux. Ah, monsieur Gau, j'ai prié une heure ce matin. Oh, je suis content, ça m'a fait du bien. Et si vous avez prié qu'un quart d'heure, hein, ils ne sont pas contents. Ça prouve qu'il y a un problème. Alors, tant mieux si on peut prier une heure, oui ou non? Mais ce n'est pas le quart d'heure ou l'heure qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on ait passé le temps qu'on avait à passer devant le Seigneur. Et le dernier texte, pour terminer, c'est dans le psaume 24. Dans le psaume 24, moi je l'ai surligné, ce brave verset. Verset 8. Psaume 24, verset 8. Moi, je vous assure, ce verset m'encourage à prier. Je vous le dis, regardez bien. Vous y êtes, hein? Psaume 24, verset 8. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Et Paul disait, mais je ne cesse de combattre. Pour lui, prier et combattre pour les autres. Mes frères et sœurs, quand on a compris... Moi, vous savez, la vie de Paul, c'est quand même... C'est particulier, la vie de Paul. L'apôtre Paul, c'est quelqu'un, quand même. Vous êtes d'accord? Mais vous comprenez pourquoi il en est arrivé là. Il dit, mais je ne cesse de prier pour moi. Il prie pour lui et pour les chrétiens de la Odyssée. Parce que combattre, c'est déjà... Il y a des gens, ils disent, non, moi, je prie pour moi, ça me suffit. Ça me suffit, c'est bon, j'en ai assez. Et parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ces choses. Mais quand vous avez compris que Dieu est puissant dans les combats, moi je crois que ça vaut la peine de prier pour les chrétiens des autres églises. Oui ou non? Chaque réunion, on prie pour les persécutés, les chrétiens qui sont en Irak, en Syrie, en Érythrée, en Somalie. Mais moi je me réjouis. Et je pense presque toujours à ce verset quand on prie, l'Éternel puissant dans les combats. À Dieu, rien n'est impossible. C'est pas moi qui l'ai dit. J'aurais aimé que Dieu m'inspire pour le faire découvrir. Mais ça a été dit et ça demeurera. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Et je voudrais que ça descende. Que ça descende de 40 centimètres. Et que vous disiez, non, ça ne sera pas dans ma tête. Oui, les stagiaires, apprenez-le, ne l'apprenez pas par cœur celui-là. Celui-là, mettez-le dans votre cœur. Je veux vivre ces choses. Vous entendez, mes frères et sœurs? Demain matin ou tout à l'heure, quand vous prierez, peut-être reprenez ces versets. Tu es puissant dans les combats, le psaume 24, verset 8. Oui, Seigneur, je me mettrai devant toi. Tu es puissant, tu as pouvoir, tu as autorité sur tout. Depuis que Jésus est remonté au ciel, il a autorité sur tout. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, terminons ce moment avec cette reconnaissance. Est-ce qu'on peut lui dire merci au Seigneur? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on termine en disant merci au Seigneur? Vous allez me dire, c'est simple, rien n'est impossible à Dieu. Combien ça fait de mots, hein? Combien ça fait de mots? 6 mots. Mes frères et sœurs, franchement, remercions-le, le Seigneur. Et que les jours à venir soient des jours où nous allons réaliser ces choses. Oui, apprendre à le connaître vraiment. Et je le répète, ce que j'ai dit au début, si vous mettez ce verset sur n'importe quel problème, vous pouvez faire une expérience extraordinaire. Moi, je peux vous dire que je vais vous donner ce témoignage parce que c'était difficile. Vous savez que quand j'étais à Tahiti, ça a été vraiment difficile. Vraiment difficile pendant 3 ans, jour et nuit. Et je me lève le matin, le dimanche matin, je me lève vers 5 heures. Et à 300-400 mètres de la maison où on était, dans le bas, il y avait une boîte de nuit qui faisait du bruit jusqu'à 3 heures du matin. Et alors, je ne dormais pas. C'était impossible. Et à Tahiti, vous étiez obligé de laisser les fenêtres ouvertes. C'est obligé. Sinon, vous ne pouvez pas respirer. Et je ne dormais pas. J'étais déjà fatigué, mais vraiment fatigué physiquement, spirituellement, émotionnellement. Enfin, j'étais mal. Et je ne pouvais pas dormir. Et Isabelle me dit, mais écoute, prie. Parce que je commençais à râler, elle me dit, mais écoute, prie. Alors je me suis mis à genoux. Je me rappelle, c'était 2h30, 3h du matin, et je me suis mis à genoux. J'étais pas bien. J'ai dit, Seigneur, ce que je sais, c'est que tu me vois. Ce que je sais, c'est que tu m'entends. Alors fais quelque chose, Seigneur. Je n'ai pas prié beaucoup plus longtemps, parce que je n'avais pas envie de prier plus longtemps. je me suis endormi. Bon. Et le mardi, je m'en vais en ville, à la poste, chercher des timbres. Je passe devant un endroit, il y avait encore des cendres partout. Et j'avais dit au Seigneur, tu vois, ce mois de nuit, Seigneur, occupe-t'en, s'il te plaît. Et je passe devant, il restait que les blocs, il y avait deux blocs, deux hauteurs de blocs qui restaient. Et il y a un pépé qui passe là, devant moi. Et je lui dis, mais monsieur, j'ai dit, il n'y avait pas une boîte de nuit là? Ah, elle me dit, si, c'est dommage. Hein. Ah, j'ai dit, oui, c'est dommage. Ah, j'ai dit, c'est vraiment, vraiment c'est dommage. Je me rappelle. Et la boîte de nuit, elle a brûlé, ils n'étaient pas assurés, ils n'ont pas pu la reconstruire. Voilà. Mais j'avais dit à Dieu, Seigneur, tu vois, je ne peux plus dormir. Bon, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. Voilà, le Seigneur, il fait bien les choses. Mais mes frères et sœurs, vous croyez que Dieu a entendu cette... C'était important? Oui, c'est important. Je vous assure. Et quand l'ange dit « Rien n'est impossible à Dieu », mes frères et sœurs, il vous faut le croire. Dieu a une solution pour tout. Allez, on le remercie ou je refais une deuxième prédication? Allez, on remercie. On va le remercier. On ne peut pas ne pas le... Ça serait presque impoli de terminer cette réunion sans le remercier. Vous ne croyez pas? Pour moi, ça serait de l'impolitesse. Alors, comme on est chrétien et poli, eh bien, on va terminer en remerciant le Seigneur. Notre Père, oui, tu nous as tout annoncé à l'avance. Et lorsque, par l'ange Gabriel, tu as dit à Marie que rien ne t'était impossible, tu nous l'as dit à tous. Alors merci, Seigneur. Tu savais ce que nous avions besoin d'entendre. Tu sais, Seigneur, ce que nous avons besoin d'entendre ou de réentendre. Ce verset, Seigneur, cette parole, nous te demandons de faire en sorte qu'elle soit dans notre cœur. Nous refusons que ce texte soit là imprimé dans notre tête, que nous pourrions citer demain à telle personne sans le vivre. Nous voulons que tous les problèmes que nous rencontrerons, nous voulons les juxtaposer avec cette promesse, afin d'expérimenter que tu es vraiment le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci de nous avoir laissé ce verset. Tu savais qu'il viendrait ce soir dans ta maison. Eh bien, nous te prions pour que cette maison soit un lieu où nous vérifions que rien n'est impossible. Pour les malades, pour les perdus, pour les paumés de la vie, pour tous ces gens qui sont là dans les ténèbres, nous croyons que dans nos réunions d'évangélisation, tu vas te révéler comme ce Dieu de l'impossible. Oui, Seigneur, tu es capable en une seconde de changer l'eau en vin. Vraiment, tout est possible. Alors, ce soir, nous te rendons grâce, oui, Seigneur. Et nous te prions de nous ramener à la maison, et surtout que l'ennemi ne vienne pas nous voler cette parole, mais que nous la laissions descendre dans notre cœur, afin que ta volonté soit faite. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.